Alléluia. Merci, merci, merci à toute l'équipe de louanges. Est-ce qu'on peut les applaudir? Merci à les bénévoles. Merci à toutes les personnes de cette église. Les enfants, sans plus tarder, je vais vous inviter à suivre Serge et à rejoindre le Club Kids dans vos salles et dans vos équipes. Allez-y, les amis. Et pendant ce temps, on va passer également pour les offrandes. Tiens, si tu veux enlever ça, ma chérie. Voilà. On va laisser passer les paniers. Je précise ici aussi, si vous êtes visiteur dans cette église, ça ne vous concerne pas. Si c'est la deuxième fois que vous venez, ça vous concerne. Donc, n'hésitez pas. On prend tout. Chèque, dents en or, Rolex, clé de voiture, absolument tout. Donc, si on peut juste laisser passer ça sur les offrandes, merci pour votre générosité qui nous permet... vas-y, je te laisse faire. Qui nous permet également de pouvoir continuer à faire vivre cette église à Connect Grenoble. Également, est-ce qu'il y a des gens ici, vous nous visitez pour la première fois? Juste levez la main. On a un petit cadeau de bienvenue. Juste gardez la main levée. Voilà, il y a Maïel qui va vous remettre un petit cadeau. Fafa, baisse ta main, s'il te plaît. Chaque dimanche, il essaye de gratter un pain au chocolat, quelque chose. Donc voilà, juste gardez votre main levée. On aimerait vous bénir et vous souhaiter la bienvenue ici au milieu de nous. Et voilà, quelques petites annonces aussi, très furtivement et courtement. On est une église ici en construction. Et vous faites partie de cette construction. Combien croient que l'église, ce n'est pas simplement des bâtiments? En fait, l'église, c'est des gens. C'est vous, c'est moi. La Bible, elle nous dit, nous sommes des pierres vivantes. C'est littéralement ça. C'est dans une construction, on est des gens qui s'assemblons ensemble. Et ça, c'est l'église. Donc, tourne-toi vers ton voisin et lui dire « Bonjour, je m'appelle l'église ». Dites ça à quelqu'un à côté de vous. Voilà, que les gens, ils comprennent. Lionel, t'es l'église. Tu vois? En fait, ce n'est pas les bâtiments. Les amis, on pourrait se rassembler chez Fafa pour un barbecue, chez Johannes pour un verre de vin. On est l'église. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas les bâtiments. C'est illusoire de croire que les bâtiments, c'est l'église. D'accord? C'est nous, c'est vous, c'est moi. Et ensemble, on veut construire cette église. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les... On va démarrer une série de messages aujourd'hui et la semaine prochaine, ne manquez pas. On va démarrer, et aujourd'hui, je vais présenter Mathieu dans un instant, c'est qu'on aimerait construire ensemble l'Église. Et du coup, qu'est-ce que ça implique? Ça implique votre participation à tout point de vue, que ce soit dans votre temps, que ce soit financier, pour qu'on puisse accueillir encore d'autres personnes qui ne font pas partie de l'Église, d'autres personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Voilà, et c'est ça qu'on veut faire. Petite transition, j'ai pas beaucoup d'annonces aujourd'hui, je suis tellement content, je prêche pas. Ce matin, je me suis levé, j'étais calme. Ma femme, elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive ce matin? Tu sais, t'as moins de pression, t'es moins énervé, t'es plus spirituel. Tu vois, c'est... non, c'est juste que je prêche pas. et également, les amis, nous avons un week-end le 4-5 mai. Dites avec moi, 4-5. Bon, le 5, c'est ici, ça va se dérouler ici, mais le 4 mai, ça se déroule dans une chapelle à Saint-Jean-de-Moiran. Cette chapelle est historique, il y a des choses qui se vivent pas plus tard que la semaine dernière. Il y a des gens qui sont venus ici de Connect Grenoble, ils m'ont dit, il y a eu un avant et un après cette rencontre. De plus en plus, quand nous avons des orateurs qui viennent à Connect Grenoble, on veut le samedi pouvoir mobiliser du temps pour recevoir d'eux. Et là, on est une équipe d'Angleterre qui vient avec des gens de haut vol spirituellement. Ça va être fort, ça va être puissant. Sauf qu'on est limité à une cinquantaine de places. Du coup, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est le 4-5 mai. C'est ce que j'ai dit. 4-5 mai, c'est ce que j'ai dit, oui. Et du coup, on est obligé de faire cette journée sur inscription. Et cette journée sur inscription, vous pouvez, malheureusement, on n'aura pas la garde d'enfants, mais tu peux, y a tout un espace de jardin dehors où les enfants peuvent jouer, etc., dans la mesure où ils ne s'approchent pas trop près de l'autoroute. Tu vois, mais on va essayer peut-être de trouver quelqu'un, mais il y aura une journée avec un traiteur qui va venir, qui va nous faire des petites fours, qui va nous bénir, juste pour que vous profitiez un maximum de cette journée. Et surtout, cette journée, il y a des gens qui vont être là. On va avoir des temps de ministère, des temps prophétiques. Ça va être fort. Du coup, je vous invite à ne pas manquer cette journée-là, le 4 mai, mais sur inscription. Et comment est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire ? Si tu ne fais pas partie de cette église, il y a des groupes WhatsApp. En fait, c'est imminent. Nous allons sortir un site internet là. On est vraiment dans les derniers mètres. On aura notre propre site internet à Connect Grenoble. Wouhou ! Bon, attends, vous y étiez pas. On aura notre propre site internet à Grenoble. Yes. Non, et c'est beau, c'est magnifique. J'ai vu des couleurs, machin, là. Il y a des visages. C'est trop, trop beau. Du coup, j'ai hâte de vous le montrer. Et comme ça aussi, quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu as juste besoin de lui dire, écoute, va sur Église, Connect Grenoble. Et puis la personne pourra nous retrouver. Ça fait plus sérieux. Voilà, voilà. Mais si vous voulez être informé très rapidement de l'actualité de l'Église, il y a un groupe WhatsApp. Et dans ce groupe WhatsApp, il suffit que tu viennes me voir, moi ou quelqu'un de l'équipe pour qu'on te rajoute sur le groupe WhatsApp. Et c'est bien, il y a des sondages, il y a pas mal d'actualités. Et c'est notamment sur ce groupe-là où tu peux t'inscrire pour la journée du 4 mai. D'accord ? J'en ai terminé pour les annonces. C'est une joie pour moi de présenter l'orateur d'aujourd'hui. C'est Mathieu. Mathieu, en fait, juste pour vous dire, et je ne veux pas déflorer le sujet, je le laisserai davantage expliquer tout ce qu'il a à cœur, mais en fait, aujourd'hui, on a le pasteur, un couple pastoral. J'y viens, ouais, t'as vu, j'ai glissé, je me suis rattrapé comme ça. Un couple pastoral à Connect Montélimar. Et en fait, juste pour vous dire que c'est une histoire à la Dieu, une histoire que Dieu a fait, une histoire que Dieu a orchestrée. Il y a 4 ans de ça, 5 ans de ça, 6, pas 4 ans, ouais, il y a des années. Il y avait un jeune couple à Montélimar qui avait démarré et implanté une église qui cartonnait dans le sens où il y a plein de choses qui se passaient, etc. etc. Et Mathieu, qui était ici, fatiguait sa femme en disant « Il faut qu'on implante une église à Grenoble. » Elle a dit « Mais chérie, je suis enceinte jusqu'au cou. On est fatigué. Qu'est-ce que tu me parles d'aller à Grenoble ? On est à 150 bornes. » Et Mathieu, c'est un passionné de montagne. Il a loupé l'appel de sa vie en étant à Montélimar. Enfin, tu vois, il est frustré d'être à Montélimar. Lui, à chaque fois, tu sais, c'est comme un amour. Dès que tu lui parles de Grenoble, il voit les montagnes, il voit ces moments où il va faire son sport, son footing, il a la petite larmichette qui coule, tu vois. Et sa femme, elle dit, je suis bien à Montélimar, je ne bougerai jamais de là. Et à cette époque-là, il priait pour Grenoble. Il priait, Seigneur, il faut implanter Grenoble. Et en fait, on fait partie historiquement de la même famille d'églises. Et Dieu, avec Elisa, il y a des années, on était à Paris et Dieu nous parlait par rapport à Grenoble. Et il y a un moment donné où Dieu nous dit « Now is the time ». C'est maintenant le moment, aller à Connect Grenoble. Et il y avait tout un... On connaissait pas mal de personnes à Grenoble, on connaissait pas mal de gens, on avait la famille, la maman, tout le monde. Mais sauf qu'on a dit « On va pas y aller tout seul ». Et on a appelé Montélimar 2 jours après. Après cette chicane de couple, 2 jours après, on leur a dit, écoutez les amis, on va à Grenoble et on a cœur peut-être, on vous soumet ça, d'implanter peut-être une église. Et est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous aimeriez être acteur aussi? Et puis eux, ils se sont mis à célébrer le Seigneur en disant, waouh, c'est extraordinaire. On sent qu'il y a quelque chose de Dieu. Et 2 ans, 3 ans plus tard, Connect Grenoble. Mathieu. Tiens, mon ami, regarde, t'as même ça, si tu veux, tac, 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 tac. Oui, oui, il va le faire mieux que moi. Sois béni, mon ami.
Merci. Merci, Jo. C'est à peu près ça, l'histoire. Mais la réalité, c'est que c'est vrai que depuis que je suis ado, je rêve de vivre à Grenoble, c'est rigolo. Et pour l'instant, ça, on n'est pas très très loin. Il y a quand même des petites montagnes à Montélimar, donc ça va, je ne suis pas totalement frustré. Mais ma femme m'a promis, les yeux dans les yeux, qu'un jour, on déménagerait à la montagne. Donc voilà, je ne sais pas où exactement ça sera, mais on verra bien. Et en tout cas, on est ravis d'être avec vous ce matin. Pour nous, d'être ici, on est à la maison. Littéralement, hier soir, on était chez Jonathan et Lisa, et c'est tellement bon d'être avec vous, avec les responsables de l'église, de voir ce que Dieu fait ici. Donc ça te dérange de te lever, mon amour? Ma chère et tendre épouse Emmanuelle, Voilà. Partenaire depuis le début de l'église, c'est vrai, à Montélimar. Nous, ça fait 9 ans cette année. Et puis, si vous pouvez vous lever aussi, il y a toute une équipe de Montélimar qui est là ce matin. Vous pouvez faire un petit coucou. Benjamin, tu peux te lever. Benjamin, c'est rigolo parce que c'est notre membre en commun. Elle est membre de Connect Grenoble et de Connect Montélimar. Voilà. Mais je sens qu'elle préfère quand même un peu Montélimar. Elle me l'a dit hier. Non, c'est pas vrai. Mais c'est trop drôle. C'est trop drôle, toutes ces connexions. Et ça peut pas être un hasard. Tu veux dire quelque chose ? Ok. Ok, la prochaine fois, ce sera Emmanuel qui prêche parce qu'elle prêche très bien. Elle a un don d'enseignement et c'est un bonheur de l'écouter. Donc, ça sera elle la prochaine fois. Et oui, c'est une aventure. L'église Connect Montélimar a démarré, pour ceux qui ne savent pas, parce que certains dans la salle, vous avez déjà entendu ça, mais sur une boutade un peu, parce que Jonathan a parlé de nous, mais il y a un autre couple que beaucoup connaissent, Olivier et Elodie Sarkis. Et en fait, tout ça a démarré. Olivier et moi, on est amis depuis qu'on est haut comme ça. On a grandi ensemble à Nîmes. Et tout ça a démarré sur une blague, alors qu'on les visitait. Ils étaient en Angleterre. Et il m'a dit, un jour, si ça se trouve, on implantera une église ensemble. Et je lui ai rigolé au nez. Ce qui était une blague est devenu réalité, alors que Dieu a parlé, que plusieurs prophéties sont venues, que beaucoup d'encouragements. Et on a démarré à Grenoble, à Montélimar, donc il y a maintenant presque 10 ans. Et c'est incroyable de voir ce que Dieu fait, de voir tous ces baptêmes, de voir tous ces nouveaux, de voir. Parce que voilà, et je veux rebondir sur ce que Jonathan disait, qui est complémentaire à ce que je veux vous partager, c'est qu'on n'est pas là pour jouer à l'église. On n'est pas là. Enfin, implanter une église, beaucoup, vous savez, dès qu'on a eu ce projet, autant beaucoup nous ont encouragés, mais beaucoup, surtout en France, nous disaient quoi, vous allez implanter une église, mais pétard, vous êtes courageux. Hein. Franchement, moi, je tenterais même pas le coup. Mais on avait le feu, on savait que Dieu nous avait parlé. Et la réalité, c'est qu'on n'est pas là pour jouer à l'église. Oui, il y a un super accueil, un super café, des super petits gâteaux. Tu es accueilli comme un roi, il y a des activités, il y a tout ce qu'il faut pour que tu sois heureux ici. Mais si on ne prend pas garde, on pourrait croire qu'on est dans un club social, quoi. Un endroit où tu viens pour te faire du bien, etc. Mais au secours, quoi. Au secours, Seigneur, enlève ça de nous. Si on est là ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Mais il a fallu que Jésus endure le fouet, endure les moqueries, endure les larmes de sang, endure une couronne d'épines enfoncée dans son crâne, endure le poids du péché du monde et meurt dans d'atroces suffoquements. Et je ne suis pas là pour vous faire du morbide, mais c'est parce que lui est passé par là que nous, on est ici ce matin. C'est parce que lui a enduré cela que nous, on peut être libérés de notre péché, on peut avoir la paix avec Dieu. Et les amis, les gens autour de nous, mais qu'est-ce qu'ils sont désespérés de ça ? Les gens sont dans une misère, une solitude, une angoisse, une anxiété au quotidien. Et nous, on a ce bonheur d'avoir eu la grâce de rencontrer Jésus, d'avoir été sauvés par lui. Et Dieu nous envoie. Et si on implante des églises, c'est pourquoi ? C'est pour que ce soit des quartiers généraux où il y a la grâce de Dieu qui se manifeste et où le monde autour de nous peut avoir accès à ce Jésus, au Père, au Fils, au Saint-Esprit, à toute sa grâce. Amen. Waouh, merci Seigneur, et je me prêche à moi-même quand je me dis ça. Et on avance ensemble, on chemine ensemble avec les Valbons, et maintenant depuis plusieurs années, plus que les Valbons, toute une merveilleuse équipe, et c'est tellement un bonheur de vous connaître et de cheminer ensemble. Et Dieu, il y a plus de 10 ans maintenant, ça fait peut-être 11 ou 12 ans, quand il nous a parlé d'implanter cette église, il nous a parlé non seulement d'implanter une église, mais surtout d'un territoire. Et il nous a parlé du Dauphiné. C'est pour ça que je tannais l'équipe à l'époque en parlant de Grenoble. Je dis, mais c'est la capitale du Dauphiné. Il y a des dauphins de partout. Vous savez, ces petits dauphins bleus un peu bizarres là. On a les mêmes chez nous, en fait, parce que c'est le Dauphiné. Et du coup, Montélimar, Grenoble, et moi qui ai, je vais vous parler de ça dans un instant, j'ai plus d'heure sur ma montre, elle a plus de batterie. Moi qui ai ce côté un peu visionnaire, je pense tout le temps à vous, en fait. Grenoble, vous êtes tout le temps dans mes pensées, dans mes prières en permanence, mais je pense aussi aux Hautes-Alpes, parce qu'en fait, le Dauphiné, c'est 3 départements, grosso modo, Drôme, Isère, Hautes-Alpes, et je pense à Gap, et je pense à Embrun, et je pense à tous ces lieux magnifiques, très montagneux, j'en rêve, je m'y projette. Blague à part, Dieu nous a mis à cœur un territoire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que des églises, on a à cœur de construire des équipes, des équipes qui vont implanter des églises, parce qu'on ne veut pas s'arrêter à deux églises. On rêve d'avoir, nous, Dieu nous a parlé à ce jour de 9 églises, donc par, imaginons, ça serait 3 églises à peu près par département que je viens de citer. Et voilà, et puis pour que vraiment dans tout le Dauphiné, on puisse aller dans ce champ de mission et qu'un maximum soit sauvé. Amen. Le Dauphiné pour Jésus. Le dauphin, c'est Jésus, le dauphin qui est sur le trône. Amen. Donc, je vous lis, si vous avez vos Bibles, on insiste beaucoup, ben moi ce matin, j'ai oublié la mienne, mais heureusement, ma femme m'a sauvé. On insiste beaucoup auprès de tout le monde pour avoir sa Bible en version papier. C'est hyper important. C'est comme la différence entre une carte et un GPS. Quand tu suis un GPS, tu n'apprends pas à te repérer dans l'espace où tu es. Et la Bible, c'est pareil. D'avoir ta Bible papier, tu apprends à te repérer dans ta Bible. Alors que sur le smartphone, ça ne fait pas le même effet. Mais il y a la grâce de Dieu, t'inquiète pas si tu es sur ton smartphone ce matin. Donc va, tu peux aller avec moi dans Éphésiens 4, la lettre aux Éphésiens. Et Éphésiens, c'est quoi ? C'est une lettre écrite à une église à Éphèse, en Grèce. Et en Turquie, et c'est Paul, l'apôtre Paul, bien sûr, et vous ne connaissez peut-être pas son histoire, mais c'était un gars, en gros, c'était un meurtrier, c'était un peu l'État islamique de l'époque pour les chrétiens, quoi. Sa mission, c'était de tuer des chrétiens, d'empêcher absolument le développement de tous ses disciples et du développement de la parole de Dieu. Et puis un jour, vous savez, alors qu'il est en chemin justement pour aller commettre un genre d'attentat quoi, contre des chrétiens, et ben, le Saint-Esprit tombe sur lui. Il est rendu aveugle et là, d'un coup, il n'y a que des chrétiens qui sont là pour l'aider. Et Dieu utilise ceux pour qui il était missionné de tuer. Quoi. Il utilise ces gens-là pour lui permettre de rencontrer Christ. Et c'est merveilleux, et puis il se transforme en cet homme énorme qui est tellement inspirant pour nous. Et il écrit ça aux Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 7. « Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne son œuvre. » Et chacun de nous, mon frère, ma sœur, prends-le pour toi ce matin, chacun de nous. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » ? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Jésus est venu sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. Jésus est venu sur la terre et puis il est remonté au ciel. C'est lui, donc là on parle de Jésus, hein, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons ensemble à l'unité, est-ce que vous pouvez répéter après moi, unité, dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade manifeste de toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance. Est-ce que vous pouvez dire croissance ? Pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité qui revient, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Amen. Merci Seigneur pour ta parole tellement exceptionnelle. Qu'est-ce que j'aime la lettre aux Éphésiens. Moi qui suis passionné par l'église locale depuis que je suis tout petit, ça m'a été transmis par Dieu puis par mes parents. Et la lettre aux Éphésiens, waouh, c'est tellement inspirant. Et du coup, j'avais à cœur de revenir sur plusieurs mots. Je vous ai fait répéter un peu des choses. Voilà, vous connaissez probablement ce magnifique endroit. J'ai pris ça ce matin après mon petit jogging. Et c'est tellement beau avec cette perspective sur Grenoble là-bas. L'ADN de nos églises, parce que oui, c'est quelque chose de collectif. Un peu plus tôt dans la lettre aux Éphésiens, Paul dit que Jésus nous a ressuscités, Dieu nous a ressuscités ensemble. Donc le salut, c'est quelque chose, oui, d'individuel, mais c'est aussi quelque chose de collectif. C'est ensemble qu'on est assis dans les lieux célestes. Amen. Et du coup, qu'est-ce que nous dit ce passage ? Il y a un truc qui est hyper important dans le genre d'église qu'on veut construire. Lui, quand il est écrit lui, et comme je vous ai dit, il s'agit de Jésus. Et je sais que beaucoup d'entre nous, c'était mon cas aussi, j'ai grandi dans ce genre d'église-là où tu avais le pasteur. Tu allais à l'église, donc Jonathan nous a expliqué tout à l'heure qu'on n'allait pas à l'église, c'est bête en fait, ça ne veut rien dire. Ecclésia en grec, c'est un rassemblement de personnes, ça n'a rien à voir avec un bâtiment. Donc on ne va pas à l'église, on est l'église, partout où on est l'église, mais on est surtout l'église quand on se rassemble. Et c'est pour ça, ça c'est aussi un petit truc important à comprendre, c'est que si t'es, tu peux être malade et handicapé et tout, il n'y a aucun souci, mais quand tu es seul devant ton ordinateur, tu dis « je fais partie de l'Église universelle », oui, dans un sens, mais en fait, ça ne veut rien dire. L'Église, c'est quand on est ensemble, c'est quand tu te frottes, quand tu es en communion avec de vrais êtres humains. En fait, l'Église universelle, elle prend son sens quand tu fais partie d'une Église locale. L'Église universelle, c'est l'ensemble des Églises locales. Donc après, il y a des circonstances, encore une fois, de vie qui font que parfois, on est un peu de notre côté, et il n'y a pas de souci, mais c'est pas ça la vraie image de l'Église. Donc ouais, ce matin, j'avais vraiment à cœur de dénoncer quelques fausses croyances comme ça par rapport à l'Église. Et du coup, c'est l'Église locale qui permet de faire partie de l'Église de Jésus. Et aussi, donc, c'est Jésus qui a fait ses dons, ses cinq ministères dont on vient de lire, à son Église. Et du coup, pourquoi c'est important? Comme je vous ai dit, tu vas dans une Église où il y a le pasteur. Et en fait, mais c'est pas biblique cette histoire-là. Parce qu'en fait, tout simplement, si tu regardes le Nouveau Testament et toutes ces lettres qui sont écrites à toutes ces églises, tu ne trouves jamais une église avec le pasteur. Et d'ailleurs, en regardant, je disais hier soir, c'est rigolo de regarder qu'il y a plein d'apôtres dont on a le nom, le prénom dans la Bible. Il y a plusieurs prophètes aussi dans le Nouveau Testament. Il y a un évangéliste, Philippe. Il y a quatre enseignants, je crois. Mais il n'y a aucun pasteur qui est nommé, dont on a le prénom dans le Nouveau Testament. Et en fait, on s'est mis dans ce truc de pasteur, c'est le pasteur qui dirige l'Église, et en gros, tout est sur le pasteur, et j'ai un problème, j'appelle le pasteur, et en gros, mais c'est toxique, quoi, parce qu'on devient dans cette relation de dépendance envers un homme, envers un être humain. Et oui, bien sûr, l'Église, c'est d'être ensemble et de s'aiguiser les uns les autres, de se consoler, de s'encourager les uns les autres, oui. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à déconstruire dans ce modèle d'Église où le pasteur est l'Église. Pourquoi ? Qui est le pasteur de l'Église ? Il y en a bien un seul, mais c'est qui ? C'est Jésus. C'est Jésus le pasteur de l'Église. C'est lui le bon berger. C'est lui le chemin, la vérité, la vie. Et c'est envers lui qu'il faut qu'on soit dépendant. Parce que lui ne déçoit jamais. Jonathan et Lisa, tous les leaders de cette Église ont beau être des gens extraordinaires, ils sont imparfaits et on va se décevoir les uns les autres. Et moi, je sais que je ne suis pas toujours à la hauteur des attentes des gens, mais c'est normal, je ne suis pas fait pour ça. Et une fois, je vous raconte l'anecdote, Simon, pour ceux qui étaient à la conférence Cœur du Père ici l'an dernier, il y en a qui étaient là, ce merveilleux Simon qu'on aime tant, il sait dire les choses de manière assez franche aussi de temps en temps. Je vous promets, j'ai été son stagiaire pendant un an. Et un jour, moi, voilà, j'étais vraiment en reconstruction identitaire, le Cœur du Père orphelin, mon chemin n'est pas fini, hein, comme beaucoup d'entre nous, mais j'étais là, mais Simon, mais on passe pas assez de temps ensemble, j'aimerais que voilà, on passe plus de temps où je peux apprendre à apprendre de toi et que tu puisses me conseiller et que tu puisses et en fait que tu sois que tu sois mon pasteur, quoi, mon pasteur comme ça, quoi, personnel. Et il m'a regardé, il m'a dit non mais Mathieu, c'est pas moi ton pasteur, ton pasteur c'est Jésus. Alors, moi, je venais, j'étais un peu en position vulnérable, tu vois. Je me prends ça dans la figure, c'était assez dur sur le moment. Et je suis allé voir mon ami Olivier, je lui dis, mais tu te rends compte, il m'a dit ça et tout, qu'est-ce qui manque d'amour, c'est incroyable. Mais oui, on est tous pareils, les amis. Et en fait, bien des années après, je me rends compte, mais qu'est-ce qu'il avait raison ? Qu'est-ce qu'il avait ? Et étant moi-même aujourd'hui en position de leadership et étant moi-même sollicité par beaucoup de personnes, souvent j'en rigole avec ma femme et souvent je prends quelque chose à manger, d'ailleurs j'ai oublié ce matin, pour après le culte, parce que c'est le pire moment pour moi. Quand le culte se termine et qu'il y a plein de gens qui viennent me voir et tout, moi je suis en hypoglycémie, je suis levé depuis 5 heures du mat. Voilà, non, mais non, parce que je suis rempli d'amour, mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est Jésus, notre pasteur. Et en fait, on dit, oui, l'Église, c'est hiérarchique. Non, moi, je répète toujours aux gens de l'Église, il n'y a pas d'hiérarchie dans l'Église. Si, il y a une seule hiérarchie, on est tous au même plan, et ensuite, il y a Jésus. Par contre, sur ce même plan, on a tous un rôle à jouer. On a une fonction, on a un appel précis. Et je dois t'en parler de servir pour le 4 là, mais servir, donner, etc. Mais il y a aussi ce côté, il y a le service, mais il y a aussi notre appel et il y a nos dons. Et ça, Dieu, comme il a donné ces choses-là, on a chacun notre rôle à jouer. Parce qu'il y a ce sacerdoce universel. Le sacerdoce universel, c'est un gros mot, mais qui a pris tout son sens il y a 500 ans, au moment de la réforme avec Luther et Calvin. Et si vous lisez dans 1 Pierre 2,9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant est le peuple de Dieu. Et en fait, quand Luther cite ce verset, il explique comme quoi voilà, la prêtrise, le fait qu'il y a le prêtre dans l'Église catholique qui en fait joue le rôle de Jésus, et comme quoi non, ce n'est pas comme ça. Chaque enfant de Dieu, chaque chrétien est un prêtre. Un sacerdoce royal, ça veut dire une prêtrise. Ça veut dire que toi, ici dans la salle, si tu es enfant de Dieu, si tu es disciple de Christ, tu es prêtre. Tu es quelqu'un qui est amené à partager le royaume de Dieu et amené à être une ressource pour ce monde et à être un canal que Dieu veut utiliser. Donc, tout le monde, encore une fois, on est tous dans le même bateau. On a tous notre part à prendre, notre responsabilité. Et ça va totalement à l'encontre de l'esprit de consommation qu'il y a tellement dans nos églises, où on vient uniquement pour recevoir. Oui, il y a un temps pour recevoir. Oui, il y a des moments où on n'est pas bien, on a besoin d'être restauré, guéri. Je sais ce que c'est. C'était il y a 3 ans, je suis passé par une période d'un genre de burn-out. C'est un peu à la mode aujourd'hui, mais c'est la réalité. J'étais complètement paumé pendant le Covid, comme beaucoup. Et j'ai eu besoin de restauration à ce moment-là. J'étais incapable de donner quoi que ce soit. Mais Dieu m'a restauré. Et ensuite, on repart au boulot, quoi. On y va, par la grâce de Dieu, par la force de Dieu. Mais on a tous quelque chose à apporter. Amen. Donc voilà, et il y a cette diversité, j'ai dû mettre diversité ensuite, avec ces 5 ministères. Et du coup, je vais pas, ça passe vite, donc je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus, mais si, j'ai quand même envie de vous lire quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu le livre « La culture de l'honneur » dans la salle de Danny Silk? Il n'y a pas beaucoup de monde, donc je vais vous lire ça. Ah purée, je ne sais plus où je l'ai mis. Oui, il est là. En fait, pour vous expliquer peut-être d'une manière que vous n'avez jamais entendu, les 5 ministères, voilà, chacun de nous a reçu, on peut entendre ministère, mais on peut aussi, voilà, parce que, désolé, je me perds un peu, mais je suis passionné. En fait, on vient de lire dans Éphésiens, Jésus a fait don de ses hommes. En fait, c'est homme, c'est plutôt être humain, parce que c'est valable pour les hommes et les femmes. Il a fait don de ses hommes. Ça veut dire que ça, c'est la différence entre un ministère et un don. Qu'est-ce que c'est la différence entre un ministère et un don ? Un don, par exemple, le don de guérison, tu reçois le don de guérison de Dieu, paf, tu imposes les mains aux malades, les malades sont guéris, c'est normal, c'est fait pour ça, tout va bien. Un ministère, Jésus a fait don de ses hommes. Ça veut dire que c'est toi-même qui es le don. Tu comprends la différence ? C'est pas un don, c'est pas quelque chose d'externe, c'est toi, c'est ta personne qui est le don. Comme Jésus est le don pour la terre, il est le parfait apôtre, enseignant, évangéliste, pasteur, prophète. Nous, chacun de nous, on a reçu un don. On est un don, et c'est pour ça qu'on peut traduire ça par une motivation. Chacun de nous a reçu des motivations différentes en nous, la manière dont on a été créé, qui affectent nos priorités, nos comportements. Comprendre les motivations que Dieu a placées en chacun de nous est essentiel pour pouvoir bien vivre et travailler ensemble. Nous avons chacun quelque chose d'unique à apporter. Nos motivations profondes peuvent être perçues au travers du filtre des 5 ministères d'Éphésiens 4. Et du coup, pour comprendre un peu la différence entre les 5, écoutez ça. Imaginez un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur et un enseignant qui arrivent sur une scène d'accident. Le pasteur est le premier à sortir de sa voiture et à se ruer sur les lieux pour évaluer la situation. Il commence par apporter les premiers secours. Le pasteur, c'est celui qui est là pour prendre soin aux blessés. Il collecte des couvertures, des manteaux, de l'eau et tout ce qu'il peut trouver pour réconforter. Il fait un examen rapide de la situation pour vérifier si quelque chose pourrait menacer la sécurité à la fois de ceux qui reçoivent des soins et de ceux qui ont été conduits sur les lieux de l'accident. Il parle avec chaque victime pour connaître son nom, sa situation familiale, si elle a des enfants ou non. Il rassemble les informations sur les signes vitaux des uns et des autres et toute information sur qui contacter en cas d'urgence de façon à aider l'équipe de secours à son arrivée. Il apporte un sentiment de calme à la situation et chaque personne présente ressent de manière authentique le soin et la relation qu'offre le pasteur. Et lui se demande s'il n'aurait pas dû être médecin. Est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce portrait ? Qui se disent « Ah, moi, je pense que j'aurais réagi comme ça. » Moi, j'en connais certains parmi vous, je pourrais dire, j'aime bien. L'enseignant est le suivant sur les lieux. Il étudie la situation pour comprendre ce qui a provoqué l'accident. Il prend du recul, remarque les traces de dérapage et la distance parcourue par chaque voiture avant et après la collision pour estimer la vitesse de chaque véhicule au moment de l'impact. En puisant dans sa grande connaissance du code de la route et des usages qui régissent la circulation, il établit une théorie pour déterminer qui était en faute. En général, il en conclut que les conducteurs ont besoin d'être formés davantage et que des cours et une instruction continue obligatoire leur seraient bien plus profitables. Donc le pasteur est vraiment centré sur les personnes, sur apporter du soin. L'enseignant est centré sur la vérité, sur comprendre la théorie et sur la formation des gens. Est-ce qu'il y en a qui sentent ça ? En général, c'est pas souvent les maîtresses, les maîtres, les profs, c'est pas pour rien que vous faites ça. C'est pas seulement pour faire ça dans l'enseignement, en dehors de l'église. L'évangéliste arrive sur les lieux et demande à tous ceux qui sont bien installés en sécurité, grâce au pasteur, « Si vous deviez mourir des suites de vos blessures, savez-vous si vous iriez au ciel ou en enfer ?» Puis il remarque de nombreux badauds et des gens dans leurs véhicules garés sur les côtés pour regarder. Il commence à s'adresser à cette foule et pose la même question. « Il n'y a aucune garantie que vous puissiez rentrer chez vous sains et saufs. Savez-vous où vous irez ?» Les gens donnent leur cœur au Seigneur juste là, sur le bord de la route. Il explique à tous ces nouveaux croyants que le don du salut est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à une autre personne. Il les forme pour qu'ils puissent à leur tour en amener d'autres à Christ et il prie qu'ils soient tous baptisés du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y en a qui se sont reconnus dans ce portrait-là ? Donc l'évangéliste, il est aussi centré sur les personnes, mais il est vraiment centré sur aller dans la mission pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, quoi. Ensuite, il s'exclame « C'est formidable !» et décide qu'en rentrant en ville, il achètera un scanner pour écouter la fréquence de la police. Le prophète savait qu'il y aurait un accident de voiture, car il en a rêvé la nuit précédente. Comme dans son rêve, tout le monde survivait à l'accident. Il réprimande l'esprit de mort et déclare avec beaucoup de foi et d'onction que tous vivront et que nul ne sera livré à la mort. Il proclame aussi que des anges entourent les lieux de l'accident et il prie que les yeux du cœur de toutes ces personnes soient ouverts dans l'esprit. Ensuite, il fait le tour à pied et commence à appeler la destinée des diverses personnes. Il libère l'esprit de révélation dans le groupe. Finalement, et assez naturellement, il pose des questions pour savoir qui a pris la situation en main. Et quand il le découvre, il discerne si ce responsable a été choisi par Dieu ou non. S'il découvre que personne n'a pris la direction des opérations, il nommera un meneur. Est-ce qu'il y en a qui se sont reconnus là-dedans ? Ce qui est rigolo avec les prophètes, c'est que tout veut dire quelque chose, tout a un sens. Ils voient des signes de partout, en permanence, sur des horloges, sur des 10h10, vous savez, on en rigole souvent entre nous. Il y a une signification à tout, quoi. L'apôtre prie pour les blessés. Il invite la guérison surnaturelle de Dieu dans ce lieu. Il se met à témoigner des manifestations de la puissance de Dieu auxquelles il a assisté sur d'autres lieux d'accident. Le niveau de foi des gens commence à grandir. Ensuite, il demande si certains ressentent de la chaleur dans leurs mains. Il met au travail ceux qui ont répondu par l'affirmative et afin qu'ils prient pour que d'autres soient guéris. Il démontre à tous ceux qui sont auprès de lui que le royaume des cieux est à portée de main. Ensuite, il ouvre une école pour ceux qui se rendent sur les lieux des accidents et les envoie tous parcourir le monde pour accomplir des prodiges et des miracles. Amen. Wouh ! Alors, est-ce que vous vous êtes tous un peu reconnus dans un ou dans l'autre des scénarios ? Oui. Vous savez, une fois, on faisait cet atelier-là à un de nos week-ends de rentrée et j'ai un ami qui aujourd'hui est un leader dans l'église. Il m'a entendu parler du pasteur, lire ça sur le pasteur. Il s'est mis à pleurer devant moi. On était en plein atelier parce que d'un coup, je l'ai vu se mettre à pleurer. Il dit mais voilà à quoi Dieu m'a appelé. Il a eu la révélation dans l'instant de ce à quoi Dieu l'avait appelé. Aujourd'hui, il dirige le groupe de jeunes avec Emmanuel et il fait un travail formidable. Apostolique, si tu as cette motivation, c'est que tu es là pour créer, transformer la culture et pour envoyer. Si tu es évangéliste, c'est gagner et recruter pour la mission de Christ. Si tu es berger, pasteur, c'est nourrir et protéger la communauté. Si tu es enseignant, c'est comprendre et expliquer la vérité. Chacun de ces dons a un domaine d'influence spécifique pour faire grandir l'Église et construire l'Église. Mais c'est surtout pas pour faire tout le job. C'est pas le job de l'évangéliste de faire toute l'évangélisation. En fait, qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure dans Éphésiens ? Le but de ces motivations, du fait que Dieu nous ait fait comme ça des dons pour l'Église, c'est de former les autres. Parce qu'on est tous appelés à évangéliser, tous appelés à prendre soin, tous appelés à envoyer, vous voyez ce que je veux dire ? Et alors, y a quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a un ordre divin dans toutes ces choses-là. J'ai dû écrire un truc comme ça après. Du ciel vers la terre. Matthieu 6 dit que ton règne vienne sur la terre, comme au ciel. Donc ça vient du ciel sur la terre. 1 Corinthiens 12, 28 dit « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite ceux qui ont le don de miracles » et il cite beaucoup d'autres dons. Pourquoi il donne cet ordre-là ? Et ça, c'est pareil, c'est hyper important pour nos églises. Et je vous assure que pour moi, ce n'est pas toujours facile. Moi, j'ai du mal. Moi, j'aime quand les choses sont bien organisées, bien carrées, qu'on respecte bien le timing. Mais heureusement, merci Seigneur que dans notre équipe de leaders, tout le monde n'est pas comme moi et qu'il y en a qui détestent quand on respecte bien le timing et qui ont vraiment à cœur de laisser la liberté de l'esprit se manifester. Je vous garantis que c'est dur. Je travaille sur ça en permanence. Mais j'ai cette conscience que c'est tellement important. Que, encore une fois, on n'est pas là pour maîtriser, pour contrôler ce que Dieu veut faire. Vous savez, si on contrôle, si on veut absolument être à la minute, si on veut absolument que tac, tac, il y ait des églises, et je respecte, on a chacun notre organisation où tu as le minuteur qui s'arrête au moment où c'est la fin, il n'y a pas de souci, mais au bout d'un moment, si Dieu n'a pas la place, il ira ailleurs. Il ira ailleurs et combien de fois on connaît des endroits où le feu de Dieu s'est manifesté, tu reviens 10 ans plus tard, et les gens te disent, c'est comme si l'esprit, c'est Bono qui dit ça, de le chanteur du tout, c'est comme si la religion... C'est ce qui se passe quand Dieu a quitté le bâtiment. Et tu retournes dans des endroits des années après et tu as l'impression que Dieu n'est plus là. Parce qu'on a tellement essayé d'organiser, de contrôler tout ça. Parce qu'il y a un ordre du ciel. Premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, parce que ce sont les deux ministères qui sont connectés au ciel. Ils sont connectés. Moi, c'est ce que je vous disais. Moi, dans ma tête, il y a tout le temps ces futures églises, il y a tout le temps ce Dauphiné. Je le vois, je vois en permanence cette carte du Dauphiné et comment Dieu va agir, comment il va se passer ici, ça, ça. Et mes amis prophètes, c'est pareil. Des fois, ils me font un peu peur parce qu'ils sont un peu perchés. Mais en fait, on a besoin qu'ils soient perchés. Et il faut qu'on honore, et je dis ça perché pour la boutade, mais il faut qu'on honore le fait qu'eux sont branchés de manière permanente sur le ciel. Et des fois, on ne comprend pas, c'est normal. C'est normal. C'est pour ça qu'il y a les autres ministères qui sont là. C'est pour nous traduire ça. C'est pour que l'enseignant, grâce à sa connaissance de la parole de Dieu, il va pouvoir t'expliquer ce que le prophète voit, ressent. Et c'est pour ça que souvent, les prophètes, on l'entend tellement souvent, sont hyper isolés. Et ils sont itinérants, ils sont un peu à droite, à gauche, mais ils ne sont pas dans une église, dans une équipe. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été un peu ostracisés, ils ont été mis de côté, ou eux-mêmes se sont mis à l'écart parce qu'ils se sentaient incompris. Et c'est pour ça que dans la Bible, vous connaissez ce verset qui dit « Celui qui reçoit le prophète reçoit la bénédiction du prophète ». Ça veut dire qu'il faut qu'on honore nos différences. Il faut qu'on honore. En fait, l'Église est belle parce qu'elle est diverse. Et c'est tous ensemble qu'on reflète Christ. Lui, il est l'image parfaite des 5 ministères. Mais il faut respecter cet ordre. Et trop souvent, on a mis le pasteur, l'enseignant et l'évangéliste, eux, sont focalisés sur les gens. L'apôtre et le prophète sont focalisés sur le ciel. Et le problème, c'est que si tu mets un pasteur à la tête, en leadership principal d'une communauté, il peut pas s'en empêcher. Il va être focalisé sur les gens. Mais tu risques de te couper du ciel. Tu risques de te couper de la révélation divine et du mouvement de ce que Dieu veut faire. C'est pour ça qu'il nous faut des équipes diverses, où il y a vraiment tous les dons, tous les ministères. Et là, je vous ai parlé de ces 5 ministères-là. Mais vous le savez, il y a plein de dons. Il y a les dons de Romains 12, vous savez, les dons du Saint-Esprit. Mais il y en a plein d'autres. En fait, il y a des milliers de dons
le Saint-Esprit, il donne de manière tellement diverse, différente, c'est, il est infini. Et il y a les 9 dons de l'Esprit d'un Corinthiens 12, il y a les dons dans Romains 12 aussi, prophétie, serviteur, enseignant, encourager, donner, leader. Il y a plein d'autres dons. On a un couple d'amis à l'église, ils ont un don d'hospitalité. Mais parce que quand tu vas chez eux, c'est comme dans le livre La Cabane, pour ceux qui l'ont lu, tu arrives chez eux, tu as l'impression de te croire au ciel. Sam et Marion, pour ceux qui les connaissent, c'est des gens comme ça, t'es vraiment, c'est leur don, Dieu les a fait comme ça. Donc il y a plein de dons différents, mais c'est important de respecter ce mouvement du ciel sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est Jésus qui nous apprend à prier comme ça. Amen. Et du coup... je vais bientôt en avoir fini, mais j'ai noté croissance. J'ai vraiment à cœur qu'on prie ensemble. Croissance. Et comme on l'a lu dans Éphésiens, il y a une notion vraiment de maturité. Si Jésus a fait ses dons, a donné ses hommes et ses femmes, j'insiste bien, c'est hommes et femmes ensemble qu'on reflète Dieu, bien sûr. C'est pour qu'on grandisse en maturité. C'est pour ça que beaucoup disent « Ah, c'est la fin du monde et tout, il s'est passé des choses cette nuit, on prie voilà, que Dieu restaure toutes choses, que sa volonté soit faite dans toutes ces circonstances dramatiques. Mais je pense que Dieu ne va pas revenir encore tout de suite sur la terre. Pourquoi ? Parce que son église n'est pas encore mature, parce qu'il y a tellement de gens encore qui restent à sauver. On a besoin de grandir encore dans cette maturité. » Et ça, c'est pareil, c'est hyper important pour nos églises de grandir en maturité. Juste un petit texte, au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarai alors « Je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Waouh, ça pique. Parce qu'en fait, Jésus, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut qu'on le connaisse. Qu'on soit vraiment en communion avec lui. Ce n'est pas faire, c'est d'abord être dans cette communion avec lui. Ça veut dire que tu peux croire en Jésus, le diable aussi croit en Dieu, hein, y a pas de souci. Tu peux dire Seigneur, Seigneur, tu peux être vraiment à fond comme ça dans ta foi et tu peux même servir, tu peux même t'épuiser au service, mon frère, ma sœur. Mais ce n'est pas ça qui t'assure ta place au ciel et c'est pas ça qui fait que tu es en communion avec Jésus. Tu peux faire tout ça et que Jésus te dit je te connais pas, comme il a dit là aux disciples. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est quoi la maturité ? C'est quoi la maturité ? C'est pour ça pourquoi celui qui écoute ce que je dis et c'est la suite et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, hein, vous connaissez la chanson, le vent a soufflé avec les violences, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison et elle s'est effondrée. Sa ruine a été complète. Donc, celui qui fait de Jésus son Seigneur, et c'est celui qui applique sa parole, qui met en pratique. Voilà ce que c'est la maturité. La maturité, c'est d'obéir. La maturité, c'est d'obéir. Et des fois, c'est des mots qui ne font pas trop bonne presse aujourd'hui, même dans nos églises, obéir, repentance. Mais c'est tellement important. C'est d'obéir à Dieu et d'être des disciples et de faire des disciples. Et vous savez, on a envie de construire des églises. C'est génial les grandes églises, c'est hyper inspirant, c'est super pour plein de choses. Mais je pense que le genre d'église que Dieu nous demande de construire, c'est pas forcément des grandes églises, bien que pourquoi pas, hein, mais c'est surtout des grandes personnes, des grands disciples, des disciples matures, des disciples qui font des disciples. C'est ça qui nous intéresse, parce qu'après... Que l'église soit grande, ça va être un fruit naturel de ça. Évidemment, quand tu as des gens contagieux comme ça de partout, forcément ça grandit. Mais de se focaliser sur faire des disciples, et les amis, Jésus, juste avant de monter au ciel, c'est ce qu'il nous a dit. C'est ce qu'il nous a pas dit, construisez des grandes églises. Non, il nous a dit, je bâtirai mon église. Et nous, il nous a demandé de proclamer sa parole et de manifester sa parole et d'amener son royaume. Il nous a demandé de faire des disciples. Et des disciples qui font des disciples. Amen. Et qu'est-ce que c'est un disciple ? Et ça, c'est ce fameux up in out que j'aime tellement. C'est 3 dimensions du chrétien. Dimension verticale, intérieure et extérieure. Un disciple, comme on l'a lu, c'est quelqu'un qui est en connexion avec Dieu, en permanence, en connexion avec Dieu. C'est quelqu'un qui grandit en maturité, parce que suivre Jésus, c'est grandir, qui apprend. C'est pour ça que nous, notre vision d'église, c'est les 3 A, adorer Dieu, apprendre à vivre comme Jésus, c'est un chemin de croissance, et enfin, aimer et servir notre ville. Donc en fait, c'est ce chemin ensuite de partager ce qu'on a reçu, tout simplement, parce qu'on ne s'est pas fait pour être gardé pour nous. Donc c'est ça qui nous intéresse, de faire des églises matures. Et c'est pour ça qu'il faut que, sans se regarder sur le nombril, de penser qu'à toi, dire oui, moi, qu'est-ce que c'est mon ministère, mon machin. Non, on ne vient pas à l'église pour dire mon ministère, mon truc, mon ça. On vient pour être ensemble, pour adorer Dieu ensemble. Mais alors qu'on est ensemble, en communion avec Dieu, eh bien, lui, il nous révèle les choses. Il nous révèle notre appel. Il nous révèle dans quoi il veut nous envoyer. Et là, c'est quelque chose qui fait un ensemble magnifique. Et c'est là que l'Église est belle. Elle est diverse. Elle est unie. Hein, on se dit la vérité dans l'amour. Et je vous laisse ça. Et c'est ce que je disais à quelques leaders avec qui on était hier soir. C'est une révélation que Dieu m'a donnée ces derniers mois qui est tellement clé. Hier encore, on était en formation. Et je me demandais, mais quel est l'ADN vraiment de nos églises, de notre église à Montélimar et puis même d'ici, parce que c'est tellement similaire à ce qu'on vit. Et Dieu m'a redit ce mot relation. En fait, l'ADN de nos églises, c'est les relations. Les relations, bien sûr, avec Dieu, mais ça se manifeste, les relations entre nous. Parce que la vérité, les amis, c'est qu'on ne pourra jamais aller plus loin que la qualité de nos relations. Si nos relations sont pourries, tout ce qu'on vit ici, ça va s'arrêter. Et heureusement, par protection, ça ne va pas durer. Mais si on se dit la vérité dans l'amour, si on s'encourage les uns les autres, si on se demande pardon quand on se fait du mal, tu viens dans l'église, tu as la garantie que tu vas être blessé. Hein. C'est pas est-ce que je vais être blessé, c'est quand je vais être blessé, c'est sûr. Mais tant mieux, c'est là que tu vas pouvoir apprendre à pratiquer le pardon. C'est là que tu vas pouvoir devenir encore plus comme Jésus. Amen les amis. On se lève ensemble pour prier. Amen. Je sais pas si... Merci Jo. Merci Seigneur. Seigneur, on t'aime tellement, Seigneur. Merci, parce que, comme on le disait, mais sans toi, aucun de nous serions là ce matin. Seigneur, tu vois comme j'étais perdu, comme nous étions perdus, Seigneur. Même on ne te cherchait pas, même moi personnellement, je cherchais à fuir loin de toi, Seigneur. Mais par ta grâce et par ton amour, tu m'as rappelé, tu m'as ramené. Tu m'as ramené, Seigneur. Tu es venu chercher la 100e brebis qui était perdue. Et nous sommes toutes cette 100e brebis ce matin. Que tu as fait la grâce de venir chercher. Seigneur, c'est ta miséricorde. Alors qu'on était dans la misère, tu nous as envoyé une corde. Merci Seigneur. Mais Seigneur, on ne veut pas s'arrêter là, Seigneur. On ne veut pas s'arrêter là. On veut prendre conscience de ce salut que tu nous as donné. Ce salut pour lequel tu es mort et tu es ressuscité le 3e jour. On l'a fêté il y a quelques jours. Parce qu'il y en a tellement autour de nous qui ont besoin de ça. Tellement de gens, Seigneur, souffrent, Seigneur. Souffrent autour de nous. Souffrent de solitude. Souffrent d'anxiété. Souffrent de se sentent sales. Se sentent indignes. Mais tu es là pour eux, Seigneur, et tu veux nous utiliser pour gagner ce monde. Pour que la terre soit recouverte de la connaissance de la gloire de Dieu. Ah, Seigneur. Et Seigneur, tu vois qu'on est là, je suis là avec mes frères et sœurs, je ne suis pas meilleur qu'eux, Seigneur, je suis aussi sur mon parcours, je continue à apprendre avec toi jour après jour. Mais Seigneur, on veut te dire qu'ensemble, on veut continuer, Seigneur. Et ce matin, je t'appelle, mon frère, ma sœur, si c'est ta volonté, si c'est le désir dans ton cœur de continuer de grandir dans qu'est-ce que c'est que d'être un disciple mature, lève ta main avec moi ce matin, comme un signe de réponse, de dire « Oui, Jésus, je veux ça. Oui, Jésus, je m'engage. » Encore ce matin, je te redonne ma vie ce matin. Pendant le temps de louange, j'avais cette image des œufs et de cette expression. Et je sens que c'est vrai pour beaucoup ce matin. Ce matin, le Seigneur t'appelle à mettre tous tes œufs dans le même panier. Je sens qu'il y a plusieurs parmi nous. C'est comme si tu fais partie de cette église, mais tu es aussi dans d'autres... Ben voilà, tu as ta vie ailleurs, tu as ta famille, tu as tes amis, ton travail. Et c'est comme si... tu te retenais quelque part. Mais le Seigneur, ce matin, te disait, ne te retiens pas. Lâche tes sécurités. Lâche tes sécurités humaines. Lâche tes sécurités de ton compte en banque. Lâche tes sécurités de tes relations. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une relation. Peut-être qu'aujourd'hui, ta sécurité, c'est ton mari ou ta femme. Peut-être que ta sécurité, aujourd'hui, c'est ton statut social. Jésus nous appelle à le suivre totalement. À prendre notre croix et à le suivre. Et Seigneur, ce matin, nous voulons mettre tous nos œufs dans le même panier. Viens, Saint-Esprit. Et oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Je voyais Jules jouer de la guitare tout à l'heure et je me rappelais cette scène. Quand on a déménagé à Montélimar avec Emmanuel, c'était par la foi. Moi, j'étais infirmier libéral, mais j'avais pas assez de jours de travail pour subvenir à nos besoins. On n'avait plus beaucoup d'économies. Et je me rappelle ce matin, on a pris un temps de louange avec Emmanuel et j'avais ma guitare. Et on chantait, on proclamait, je connais les projets que j'ai fait pour vous, projet de paix, non de malheur. Et on proclamait ça dans les larmes, les amis, parce qu'on avait mis tous nos œufs dans le même panier. Et le jour même, je me retrouve dans un laboratoire et je vois un numéro de téléphone d'une infirmière qui avait laissé pour un autre remplacement. Et les chiffres du numéro de téléphone étaient la référence exacte de ce verset qu'on proclamait dans la louange. Et là, on a compris, on a dit, mais merci Seigneur. Et depuis, le Seigneur a toujours pourvu. Mon ami, ça vaut le coup de lâcher tes sécurités. C'est pas comme si tu faisais un saut dans le vide, c'est que tu fais un saut dans les bras du Père. Il est là pour t'accueillir. Il a des projets merveilleux pour toi. Tu n'as pas idée. Et oui, il y aura des soucis. Oui, il y aura des embûches. Mais tu vas passer au travers avec Dieu. Tu vas franchir les obstacles. Amen, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Abandonne-toi à Dieu encore ce matin. Donne-lui les domaines que tu ne lui as pas encore abandonnés ce matin. Demande-lui pardon. Repens-toi. Dis, Seigneur, je choisis de changer avec toi dans ce domaine-là. Je choisis de te remettre ces relations. Je choisis de te remettre mes finances. Je choisis de te remettre mon avenir. Je choisis de te remettre mon futur conjoint, mon futur mari, ma future femme. Je choisis, Seigneur, de te remettre ma carrière professionnelle. Peut-être que tu es dans une période de transition professionnelle. Le Seigneur a des projets pour toi. Abandonne-toi à lui, fais-lui confiance. Il n'y a que comme ça qu'on verra la gloire de Dieu. Il n'y a que comme ça qu'on ne sera pas en train de jouer à l'église, mais qu'on verra la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Shadrabasadra, Kirabashandra. Viens Saint-Esprit, manifeste-toi. Je sens qu'il y a quelqu'un, c'est dans les relations, il y a quelqu'un, le Seigneur te met à cœur, à qui tu dois demander pardon. Parce que l'unité vient quand il y a la vérité qui est dite dans l'amour et quand il y a le pardon qui est manifesté. Merci Seigneur pour ces personnes. Alléluia. Merci pour ce que tu vas faire. Seigneur, nous avons soif de plus. Plus de toi, Seigneur. Je t'invite, si tu as à cœur vraiment de d'avancer là-dedans, si tu as à cœur de répondre à cet appel, vraiment à te mettre à ta place là où tu es, te mettre à genoux. Te mettre à genoux en signe de dire, Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur. Je te la redonne, Seigneur Jésus. Aujourd'hui est un nouveau départ. Merci, Papa. Merci, Papa. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu vas accomplir des choses incroyables, Seigneur, au travers de ma vie. Je crois que je ne suis pas né par hasard, Seigneur Jésus. Je crois que je ne suis pas dans ce lieu, au milieu de cette communauté, Seigneur, par hasard, Seigneur. Et je choisis de t'abandonner, Seigneur, tout ce que je ne comprends pas. Oh, Seigneur, viens, Seigneur. Viens, Seigneur, nous avons tellement soif. Soif de plus, Seigneur. Alléluia. Merci, Papa. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus.